Make some noise.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Derrière,
l'objectif.
L'objectif.
Derrière l'objectif.
Elle avait rêvé en fait qu'un homme se tenait de l'autre côté du petit ruisseau juste en bas de chez elle, qu'il avait un sac plastique dans la main et qu'il disait « Regarde maman, j'ai ta fille ici, elle est découpée en morceaux et tout ». Et que directement après, elle a interdit à tous les enfants d'aller jouer à côté de ce petit ruisseau.
Comment dormez-vous la nuit ? C'est la question posée par la photographe Adrienne Surprenant entre 2017 et 2021 pour recueillir les témoignages de l'inconscient de ceux qui ont vécu l'horreur de la guerre civile en Centrafrique. Depuis que la Seleka, une coalition de groupes armés, a chassé François Bozizé du pouvoir en mars 2013, la République centrafricaine est déchirée par un conflit aux racines économiques, politiques, sociales et religieuses. En 2020, avant l'élection présidentielle, les principaux groupes rebelles du pays se sont alliés pour déstabiliser le président et candidat sortant, Faustin Archange Touadéra, en formant la coalition des Patriotes pour le changement. Depuis une décennie, la majeure partie de la population centrafricaine a assisté ou participé à au moins un acte de violence, allant du viol au meurtre. Insomnie, cauchemar, dépression, dans son travail, la photographe explore les troubles du sommeil, l'un des principaux symptômes du stress post-traumatique. Derrière l'objectif d'Adrienne Surprenant, nous sommes en Centrafrique en 2017.
J'ai décidé de vous emmener en République centrafricaine, qui est un pays sur lequel j'ai travaillé depuis 2017 jusqu'à 2021 et dans lequel j'ai vécu pendant 2 ans.
Les Balakas nous ont frappés, ils ont tué mon mari. Mes enfants sont orphelins. Je ne sais pas quoi faire. On a fui comme ça, sans vêtements. On n'a plus rien. On dort à même le sol sur le ciment.
Ils ont dit qu'ils allaient me tuer et m'enlever le bébé du ventre.
Ils m'ont dit que tous les chrétiens sont des anti-Balaka. Tous, même les enfants. Qu'il faudrait les exorciser. Sinon, ils vont en finir avec les musulmans.
Là-bas, j'ai rencontré la journaliste Brenna Daldorf qui m'a proposé de travailler avec elle sur un projet sur les premiers gradués du programme de psychologie de l'université de Bangui qui venait de rouvrir. C'est hyper intéressant là-bas parce qu'il n'y a qu'un psychiatre pour tout le pays, de 4,5 millions d'habitants environ, donc c'est vraiment une énorme problématique. Comme la santé mentale, c'est pas du tout connu en République centrafricaine et que les mots liés aux problématiques de santé mentale, donc dépression, insomnie, le syndrome de stress post-traumatique, ça n'existe pas du tout dans la langue locale, le sango. Donc c'est très très dur pour les gens déjà d'identifier quand ils ont des traumatismes et d'en parler. On rencontre ces étudiants, on rencontre donc le psychiatre aussi, docteur Kété. Et donc lui, au début de ses entretiens avec des patients, il demande toujours « comment dormez-vous la nuit ?» Après, j'ai continué à faire mes reportages sur place. Je suis restée finalement un mois ou un mois et demi, je sais plus. Je suis retournée au Cameroun et je me suis dit, bon, en fait, je vais travailler sur le long terme, sur la problématique de la santé mentale en République centrafricaine, en passant à travers le prisme des rêves, des cauchemars et des insomnies, en demandant aux gens comment ils dorment la nuit. L'idée, c'était vraiment de dire, bon, ils me racontent, je leur demande un rêve, un cauchemar, ils me racontent un peu comment ils dorment. En général, les gens finissaient par me raconter toute leur histoire. J'ai eu des gens qui disaient, vous êtes la première personne à qui je me confie autant. Des moments hyper forts.
Il faut la réconciliation et arranger les choses. Mais il y a des choses qui ne s'oublient pas. Je ne peux pas oublier que Jean a tué mon fils. Si je vois son fils à lui, je vais vouloir le tuer pour me venger.
Des photos, donc beaucoup de portraits et aussi des paysages qui viennent un peu marquer les lieux de ces traumatismes. Donc c'est un traumatisme pour certains qui était très ancien et pour d'autres beaucoup plus récent. Et pour moi, c'était important aussi d'aller voir vraiment toutes les franges de la société. Donc je suis allée voir autant des femmes, des hommes, des gens qui ont commis des crimes ou qui ont rejoint des groupes armés, enfants soldats, mais aussi genre des chefs de groupes armés. Toujours avec la même question, pour essayer de comprendre en fait comment ça changeait, ça transformait la société centrafricaine. Et parce que aussi je me dis que s'il y a un traumatisme comme ça, et c'est vraiment c'est tout le monde en République centrafricaine qui a vécu, subi ou commis un acte de violence extrême. Il n'y a personne qui est épargné. Donc est-ce que ça ne contribue pas à perpétuer le conflit? Si on ne résout pas ces problématiques et si on ne se penche pas sur la question... je pense que ça vient perpétuer un cycle de violence.
On a perdu nos biens et nos parents. Maintenant, ils ont encore des armes à la main. On vient nous parler de paix pour nous dire de repartir là-bas. Et ils ont encore des armes. Est-ce que c'est normal ?
Je vais vous raconter le rêve d'une dame que j'ai rencontrée qui, pendant le plus fort de la crise, elle habitait juste à côté du PK5, donc qui était l'enclave musulmane en plein cœur de la capitale de Bangui. Et du coup, donc, elle était vraiment à la frontière de ce haut lieu des violences. Et elle a commencé à héberger les enfants qui étaient abandonnés ou qui se retrouvaient sans parents du voisinage. Donc elle s'est retrouvée avec plus d'une dizaine d'enfants chez elle. Donc elle ne pouvait plus fuir parce que c'était beaucoup trop à gérer. Et elle avait ses propres enfants en plus. Régulièrement, en fait, dans les puits, dans les petits ruisseaux, elle trouvait des cadavres. Quand c'était des voisins, des gens qu'elle connaissait, elle essayait de les enterrer un peu décemment. Et puis moi, quand je l'ai rencontrée, c'était encore assez tendu. Donc il y avait des petits événements une fois de temps en temps, des clashs, des petites montées de violence et de stress encore dans le PK5 et dans son quartier. Et elle me racontait que la veille, elle avait rêvé en fait qu'un homme se tenait de l'autre côté du petit ruisseau juste en bas de chez elle, qu'il avait un sac plastique dans la main et qu'il disait « Regarde maman, j'ai ta fille ici, elle est découpée en morceaux et tout ». Et que directement après, elle a interdit à tous les enfants d'aller jouer à côté de ce petit ruisseau. Et elle en avait deux, trois autres, mais celui-là, moi, j'ai trouvé affreux parce qu'ensuite, ça influence vraiment sa vie où elle a peur au quotidien de voir ses enfants s'approcher de ce petit ruisseau. Au début, ils me racontaient un peu leur histoire. Ça ressemble souvent à une énumération. C'est « j'ai été dérangée pendant les événements, telle personne a été tuée, il y a eu ci, il y a eu ça, j'ai reçu une balle, ensuite il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, et voilà. » Donc vraiment très plat. Et là, je disais « ok, est-ce que tu peux me raconter un rêve ?» Il racontait un rêve et il y a quelqu'un qui m'a dit mot pour mot « si je fais ce rêve-là, c'est parce que la réalité n'était pas si différente. » Et ensuite, en général, on commençait à me raconter la réalité. Donc, tout ce qui s'était passé. C'était un peu un brise-glace, en fait. Moi, je trouvais ça super drôle, parce que des fois, tu travailles avec des journalistes qui viennent d'arriver en Centrafrique, ils essayent de faire leurs entrevues, ils demandent comment vous sentiez-vous. Les gens font sentir, non, il n'y avait pas d'odeur. Ok. Bon, d'accord. Quelle émotion ? Émotion, mais rien, ça va. Et en fait, ils ont tellement vécu, et c'est, culturellement, c'est pas des gens, c'est pas comme nous, on va tout le temps être là en train de dire oh, « je suis triste ». En fait, c'est juste des manières différentes de poser les questions qui fonctionnent hyper bien parce que ça réfère à, culturellement, à la langue aussi. En fait, à des mots qui fonctionnent pas trop bien. Et donc, tu poses la question différemment avec d'autres mots et la parole se délie. Et puis, bon, j'ai pas analysé, mais souvent, bah, je prenais vraiment le temps avec les gens d'être sûr que, tu vois, ils avaient envie de partager et que ça allait et que ils étaient OK après avoir donné leur témoignage. Et j'ai aussi anonymisé des témoignages, même si les gens voulaient avoir leur nom, parce que je pense qu'ils réalisaient pas l'ampleur de ce qu'ils m'avaient confié. Donc j'avais peur qu'il y ait des retombées, donc j'ai fait portrait anonyme et faux nom. Même si eux disaient « Non, c'est bon, tu mets mon nom. » Juste par précaution, quoi. Savoir que ça impacte tous les aspects de la vie. J'ai une dame, admettons, qui m'a dit qu'elle n'arrivait pas à dormir la nuit parce que ben, son mari avait été tué devant ses yeux et tout ça. Et donc, en fait, le matin, elle était trop épuisée pour faire ses petits beignets et les vendre devant la maison et donc prendre soin de ses enfants et des autres membres de sa famille, donc grand-mère, etc., qui étaient à sa charge. Et donc, ça devenait un cycle de stress. Elle faisait des énormes insomnies à cause de ce qu'elle avait vécu et ça s'amplifiait parce qu'en fait elle n'arrivait plus à gérer la vie quotidienne et les maigres besoins. Il ne faut pas oublier que bah, c'est comme chez nous en fait. Quelqu'un de déprimé a du mal à aller au boulot, a du mal à socialiser, etc. Donc c'est toute la vie qui est transformée et puis c'est pareil en Centrafrique. Sauf qu'ils ont des besoins, tu vois. C'est très dur de survivre en fait déjà dans le pays à la base, donc il faut y faire gaffe, il faut faire attention et voilà.
Personne, aucune personnalité de ce pays n'est venue nous voir. Il n'y a que ceux qui viennent de loin qui nous parlent de paix. Nous, on est né à Bangassou et cette terre nous aime. Mais tout le monde nous hait. Tout le monde, toutes les autorités de Bangassou sont contre nous, les musulmans.
C'est une photo avec une petite dentelle qui était le rideau à l'entrée de sa minuscule maison. Et donc elle est un peu de profil, il y a une lumière qui vient éclairer juste la ligne de son nez, de sa bouche, de son visage, et qui prend un peu sur la dentelle dorée. Donc c'est une photo anonyme, elle préférait rester anonyme parce qu'elle vivait encore dans un village pas trop loin de potentiellement les perpétrateurs des violences contre sa famille et du mur de son mari. Donc, en fait, elle se sentait pas en sécurité de témoigner à visage découvert. C'était assez impressionnant parce que donc on se rencontre et il n'avait jamais fait d'entrevue, rien. Il n'avait jamais rencontré de journaliste. Et je pose la caméra, je lui explique le projet en même temps. Il avait déjà accepté de témoigner. Et il comprenait vraiment en fait le besoin de faire entendre, de parler, de communiquer. Et l'abri, il est fait avec des herbes séchées et à travers ces herbes, en fait, il y avait plein de petits éclats de lumière qui filtraient. Et je lui ai demandé de fermer les yeux et je l'ai positionné en fait dans un comme ça il y a un cercle de lumière qui arrive sur un de ses yeux et on voit pas donc le bas de sa tête. Pour moi ça évoquait un peu le rêve, ça évoquait aussi la nuit, les cauchemars, l'ambiance que je voulais transmettre. Ce que Marcel raconte, c'est que il a vu son voisin, donc c'était quoi, il était découpé en morceaux, voilà, et que la personne qui découpait son voisin en morceaux a pris la chair qui était encore tremblante dans sa main, l'a secouée et a dit « je vais aller manger ça, je vais aller bouffer ça », en regardant Marcel. Et ça, c'est une des histoires qu'elle a vécues, un des passages. République centrafricaine, on a un déroulé d'histoire. Tu demandes à quelqu'un comment ça va et en fait, tu réalises qu'il y a une telle suite d'événements, de meurtres, dans son histoire familiale, personnelle et tout. Et donc Marcel, c'était comme ça. Je pense que je prenais vraiment le temps aussi de poser les questions une après l'autre. Donc je vais demander à la personne de se présenter. Je vais lui demander de me raconter ce qui lui est arrivé très très large. Ensuite, je vais lui demander un rêve, un cauchemar, mais j'évalue au fur et à mesure jusqu'où je peux aller avec mes questions, jusqu'où la personne veut aller. Et je prends le temps aussi, si on touche à des trucs très très sensibles, je vais jamais dire « Ok, c'est bon, j'ai mon matériel, merci, au revoir ». Je prends en général le temps de aussi désescalader un peu le niveau d'émotion, pour être sûr que quand je quitte la personne, en fait, on a fini par parler de quelque chose de peut-être un petit peu plus léger. Ou d'un peu plus facile, quoi. Les hommes sont pas habitués de parler face à face avec une femme de sujets durs et profonds, donc ne prennent pas forcément au sérieux. Ensuite, ça va en général. C'est même, moi je pense que sur beaucoup de points ça aide, parce que quand on arrive à un checkpoint, il y a pas du tout ce truc de virilité. Ils ont beaucoup moins de choses à prouver face à moi que face à un homme barbu. Et ça peut pas escalader dans des choses un peu plus agressives ou violentes, en fait. On a un petit pouvoir de calme qui est à notre avantage. À rester neutre, je pense que c'est important, et je pense aussi qu'il y a plein de monde... notamment un jeune homme, il s'est fait, qui était enfant soldat, il s'est fait embrigader là-dedans, complètement hors de son contrôle. Il était dans les groupes anti-balaka, donc il s'était fait vacciner, c'est de la scarification, une petite cérémonie qui rend invincible au bal après. Et du coup, lui, il pensait qu'il s'était fait mettre un animal totem, genre un animal dans lui, qui prenait possession de lui quand il devait être violent. Au moment de cette cérémonie-là, et là, son plus gros souci dans la vie, c'est que l'animal ressortait. Donc des fois, il avait des accès de rage et de violence, mais pour n'importe quoi. Et quelqu'un lui rendait pas bien la monnaie, il avait envie de le tuer. C'est un des symptômes du PTSD, donc c'était hyper fort. Et tu dis, bon, t'as une solution. Il fait, ouais, bah, il faut que je retrouve le gars qui m'a vacciné et que j'arrive à collecter l'argent pour le payer pour qu'il m'enlève mon animal. Et là, t'es là, bah en fait, oui, ok, il a tué plein de monde, mais je peux pas, je peux essayer de comprendre et aussi de trouver ça horrible ce qui lui est arrivé. Ensuite, il y en a d'autres qui ont juste tué plein de monde et qui sont complètement insensibilisés, mais je trouve que c'est aussi notre boulot de se poser ces questions-là. Mais de toute façon, si dans notre boulot en Centrafrique, on était aussi amené à, des fois, pour documenter ce qui se passait, il fallait qu'on communique avec les groupes armés. Donc c'est la neutralité, c'est de pouvoir montrer les deux côtés d'un conflit ou d'une crise, c'est d'apporter la nuance et une vision complète de ce qui se passe, quoi. C'est hyper important. Le niveau d'horreur et de violence est assez incroyable, quoi. Et donc, je pense que c'est pas... Et je pense que c'était l'idée aussi dans mon projet, c'est de trouver une manière de l'aborder, de confronter à l'idée d'un charnier, de confronter à l'idée d'un viol de groupe, mais sans non plus avoir besoin de montrer quelque chose qui est irrecevable pour 90% des gens. Donc c'est comment est-ce que je peux emmener le grand public à comprendre un tout petit peu, à regarder au minimum cette violence. En fait, je peux pas non plus, on peut pas tout vous balancer dans la gueule, quoi. C'est Et donc ouais, c'est des questionnements que je pense qu'on a tous.
Derrière l'objectif. Vous avez aimé cet épisode ? N'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.